Le Forum de l'aménagement durable, en partenariat avec l'UNAM, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo et sur Radio Territoria, en direct du Forum de l'aménagement durable avec l'UNAM, l'Union Nationale des Aménageurs. Et j'ai le plaisir d'être avec Sylvain Griseau, urbaniste et fondateur de Dixit.net. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Écoutez, très bien.
Alors, vous avez une présentation pour nous.
C'est ça, une petite introduction.
Voilà. Alors, je vous laisse dérouler. Du coup, il y a des slides qui sont juste derrière vous.
Qui sont juste là. Déjà, merci pour l'invitation. Merci à toutes et tous. Je vais me présenter extrêmement brièvement. Juste vous dire que moi, je suis un praticien de la ville. Ça fait une vingtaine d'années que je fais de la ville en tant qu'urbaniste. J'ai commencé dans des bidonvilles de l'océan Indien. J'ai ensuite fait des zones d'activité au bord des échangeurs, des écoquartiers dans des champs. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser aux friches, à faire ce qu'on appelle la ville sur la ville, dans la profession, la ville compliquée. Et puis j'ai commencé une enquête il y a 5 ans, en commençant à interroger celles et ceux qui font la ville autrement. Ça a donné lieu à un bouquin qui raconte cette enquête-là, Redirection urbaine, et je vais vous raconter quelques certitudes acquises dans ce travail-là, ce travail de terrain, mais aussi pas mal de doutes. Mais déjà, j'ai oublié de vous dire bonjour. Hein. Bonjour et bienvenue dans les 30 turbulentes. Les 30 turbulentes, c'est les trois décennies, qui nous séparent de 2050. C'est ces décennies où on va devoir apprendre à vivre dans des oscillations extrêmement importantes. 2020, c'est un changement de siècle. C'est pas juste une pandémie. La pandémie a tourné finalement la page du XXe siècle. Et souvenez-vous, hein, il avait fallu la guerre de 14 pour qu'il commence ce XXe siècle. Et depuis, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est assez compliqué. On a eu une pandémie mondiale. On a eu des ruptures d'approvisionnement en matériaux, en semi-conducteurs. On a même manqué de papier toilette dans la 5e ou 6e puissance mondiale. Il y a un porte-conteneurs qui a loupé son créneau, d'abord dans le canal de Suez et là, finalement, contre un pont. Plus rien n'est acquis. En fait, on ne sait plus de quoi est fait demain, alors que nous, on fait la ville. Et ceux qui font la ville, ils sont obligés de travailler à après-demain, voire plus loin. Comment est-ce qu'on arrive à construire ? Comment est-ce qu'on arrive à aménager un territoire, à regarder au loin, alors qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain ? En fait, il se trouve que quand on est faiseur de ville, on est au croisement des crises. Hein, à la fois la crise climatique dont on parle, mais aussi la crise de la biodiversité ou la crise des ressources. Au croisement des responsabilités, mais ça veut dire que les faiseurs de ville et au premier chef les aménageurs sont aussi au cœur des solutions à ces crises-là. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'impasse. La première des impasses, c'est la monoculture automobile. Vous la connaissez, celle-là, hein, c'est la Ford T. Henry Ford, quand il sort sa première Ford T en 1909, il invente un outil de mobilité qui va transformer le faciès de nos villes, l'organisation de nos rues, mais il invente aussi un mode de production. Ce mode de production, c'est l'industrialisation. Standardisation des produits qui permet le travail à la chaîne, la massification, la démocratisation avec une massification de la production. On garde ça en tête parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait nos villes. On a la première Ford T qui sort des usines de Détroit en 1908 et c'est la révolution. Hein, regardez, 1900, on est à New York dans la 5e avenue, il y a déjà une voiture au milieu des voitures, au milieu des calèches. Et 1913, on est le même jour, hein, le jour de Pâques, c'est la grande parade, il n'y a plus qu'une calèche au milieu des voitures. C'est la révolution de l'iPhone, mais pas dans nos poches, c'est dans les rues américaines. Et ça se passe très mal. En 1920, on a 14 000 morts dans les rues américaines, on sonne le glas dans certaines communes, quand un enfant se fait écraser, parce que la majorité des victimes sont des enfants. Il y a des débats dans certains États fédérés sur l'opportunité d'interdire la voiture en ville. Je suis en train de parler de 1920 aux États-Unis, pas de la mairie de Paris en 2020, hein, qu'on soit clair. Et vous connaissez, vous savez comment ça s'est passé. Ça ne s'est pas passé comme ça. Hein, la rue n'était pas organisée pour l'irruption de la voiture qui allait trop vite dans le système urbain et qui posait ces questions d'accidentologie, de risque. Et donc, on a adapté la rue à la voiture. Ça commence en 1925, le moment où à Los Angeles, on demande aux piétons de rester sur le trottoir. Hein, on change la réglementation. Évidemment, c'est à Los Angeles l'épicentre de la culture automobile. Ça veut dire que même aux États-Unis, ça fait moins d'un siècle qu'on a commencé à adapter la ville à la voiture. Les rues qui se transforment au moment du croisement des courbes, hein, le nombre de chevaux en circulation et le nombre de voitures en circulation aux États-Unis, au moment aussi où on invente les premières boîtes de nourriture pour chiens. Quel est le rapport, me direz-vous ? Il fallait bien faire quelque chose des chevaux excédentaires. Hein, on les a mis dans des boîtes. Ça, c'est le milieu des années 20, mais il faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour qu'on commence à transformer la façon dont on fait nos villes, avec l'adaptation littérale des processus de la production automobile à la production de logements. C'est Lewitt & Sons, une entreprise générale de construction, qui décide d'adapter les méthodologies de General Motors, c'est Henry Ford plus l'obsolescence programmée, à la construction de maisons. Ils font les maisons sur catalogue, standardisation du produit. Ils vont produire hors site, comme le faisait l'armée américaine quand elle construisait des baraquements pour suivre l'avancée des troupes en Europe. La construction hors site, l'industrialisation, le travail à la chaîne, la massification, qui permet de rendre abordable la maison. On fait des maisons standards, mais il faut du foncier standard, et donc on sort de la ville, où le foncier est biscornu, les terrains sont habités, voisinés, etc. Et on va acheter des champs de patates et des champs d'oignons dans la périphérie de New York. C'est Lewitt & Sons, c'est 1949, c'est l'invention du modèle du suburb. Tout est là. Tout est là. La standardisation des process, l'industrialisation de la fabrication de la maison, la consommation de sol agricole, l'initiative privée, mais aussi la dépendance automobile. On va chercher tous les services grâce à la voiture, parce qu'on est sur un secteur qui est monofonctionnel, c'est-à-dire on habite là. On va chercher toutes les autres aménités ailleurs, l'emploi, le service, l'école, etc. Ça va plus loin, c'est aussi de l'homogénéité sociale. Les premières Lewitt & Sons sont réservées aux Blancs et aux anciens combattants, parce qu'on invente aussi aux États-Unis l'endettement des ménages pour l'acquisition de la résidence principale. Là, on est au milieu des années 50, c'est là où ça décolle réellement. Lewitt & Sons, l'entreprise qui a inventé ça, fait faillite en 2007 avec la crise des subprimes, la crise de l'endettement des ménages américains, du surendettement des ménages américains pour l'acquisition de la résidence principale. Alors, révolution aux États-Unis, non. Non, parce qu'il n'y a pas la route. Il faut attendre les années 60, un grand plan d'investissement autoroutier qui est lancé par Eisenhower pour que réellement le modèle du suburb se déploie avec ses versions commerciales, tertiaires, etc. Il faut aussi attendre 20 ans pour que le modèle traverse l'Atlantique et Lewitt & Sons construit plus de 5000 logements en Île-de-France notamment. Avec une deuxième impasse de la fabrique de la ville, évidemment, l'artificialisation des sols. Alors, vous connaissez l'histoire, le modèle pavillonnaire est importé par décision d'État. L'État, au début des années 70, tourne le dos aux politiques de la reconstruction, grands ensembles, modèles locatifs, bailleurs sociaux, et s'appuie finalement sur une autre forme urbaine, la maison. C'est le début de l'éloge du pavillonnaire, s'appuie sur des acteurs privés et sur un modèle de propriété privée. C'est le début du slogan « Une France de propriétaires ». C'est pas du tout Sarkozy, ça remonte aux années 70. Alors, politique de droite, évidemment, et de gauche, puisqu'il faut attendre les années 80 pour que ça décolle réellement. Il faut attendre que la décentralisation donne les clés du camion aux élus locaux. Et le camion, c'est le POS, l'ancêtre des plans locaux d'urbanisme, avec une mission assignée par l'État aux élus locaux, qui est de construire, de créer le foncier qui permettra aux lotisseurs de bâtir la maison des Français. Non seulement ils font le job à partir du milieu des années 80, mais en plus ils inventent un contre-modèle à l'exode rural qui a saigné nombre de communes. C'est le moment où les territoires dans lesquels nombre d'entre vous habitent voient la courbe de population repartir. C'est ces territoires dans lesquels on habite, dans lesquels les gamins vont à l'école, dans lesquels on va dans les commerces, dans lesquels les élus locaux ont réussi à maintenir les écoles, les services publics ouverts, grâce à des aménagements de l'entrée de bourg, bout de lotissement par bout de lotissement, on permet de maintenir, d'avoir une nouvelle population qui habite là, qui vote là, mais qui ne travaille pas ici. C'est ce qu'on appelle le périurbain, dans lequel un quart à un tiers de la population française habite, et habite en général plutôt bien. C'est ces territoires qui se sont déployés finalement à un horizon extrêmement court dans la vie de nos villes, mais dans notre vie consciente, on a toujours connu que ça. Ça a décollé au milieu des années 80, c'est dans notre référentiel mental. On pense que la ville doit être faite comme ça parce qu'on a toujours connu ça. Mais non, il y a d'autres façons de faire, on va le voir. Ça a quelques impacts. 20-30 000 hectares consommés pour faire la ville tous les ans en France. C'est 5 stades de foot toutes les heures ou 20 aéroports Notre-Dame-des-Landes tous les ans. Moi, je suis nantais, chacun son unité de surface. Évidemment, on va retrouver la géographie de la croissance, la géographie de l'attractivité dans cette consommation d'espace. Parce que qui dit plus d'habitants, dit plus de villes. Il y a une forme d'évidence à tout ça. Donc, on va retrouver nos métropoles régionales, on va retrouver l'Île-de-France, un certain nombre de territoires littoraux, etc., etc. Mais en fait, quand on regarde en arrière, on s'aperçoit que cette équation, elle ne tient pas vraiment. Nos villes, elles grandissent 3 fois plus vite que leur population. Il y a donc une forme d'inefficacité aujourd'hui de la consommation de sol. Mais si on zoome un peu plus, on s'aperçoit qu'en fait, cette équation qu'on a tous en tête, plus d'habitants égale plus de villes, hein, regardez, tous les élus locaux le disent aujourd'hui, si on arrête de consommer du sol, on va mourir. C'est la fin du développement. En fait, cette équation, cette relation entre la consommation d'espace et la dynamique d'un territoire n'existe pas. On a un quart des lotissements qui sont aujourd'hui construits en France qui le sont dans des communes qui perdent des habitants. Il n'y a pas de relation entre la consommation d'espace d'un territoire et sa dynamique, que ce soit en termes de population ou en termes économiques. Et pourtant, on a tous ça en tête. Ça a des effets sur nos entrées et nos sorties de ville, hein, on ne parle pas assez des sorties de ville, sur notre capacité de production agricole, sur évidemment les écosystèmes, et puis aussi sur une forme d'urbanisme à fragmentation qui vient spécialiser les espaces par catégorie sociale, avec toujours les mêmes qui sont dépendants à la fois de l'énergie pour chauffer leur maison, mais aussi de la voiture pour aller au boulot. Et puis, troisième impasse, je m'arrêterai là, c'est évidemment la passe climatique. Hein, aujourd'hui, la ville dicte finalement la moitié de notre budget carbone. C'est les bâtiments, mais c'est aussi la forme de la ville qui dicte la mobilité automobile, notre mobilité du quotidien. Alors, responsable hein, et victime aussi. La ville est aussi en première ligne des bouleversements climatiques, inondations, recul du trait de côte, canicule ou incendie comme ici à Lytton. Hein, Lytton, c'est à 300 km de Vancouver, un territoire qui bat pendant 3 jours les records mondiaux de température au Canada. Il frôle les 50 degrés. Le 4e jour, Lytton brûle à cause d'un incendie. Hein, c'est une des victimes du bouleversement climatique parce qu'il fait en moyenne 25 degrés à Lytton et pas 50 degrés au mois de juin. Mais surtout, c'est absolument pas un territoire qui est touché par le risque feu de forêt. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à réaliser. Le bouleversement climatique, c'est des coups plus violents et plus fréquents sur nos territoires, mais c'est aussi une nouvelle géographie des risques qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui aujourd'hui se croient à l'abri, qui vont connaître de nouveaux risques. Or, les risques urbains, on les gère toujours en regardant le passé pour anticiper l'avenir. Hein, on s'appuie sur des crues de référence pour faire nos modélisations qui permettent de faire les plans de prévention des risques d'inondation. Le même été, hein, il y a 2 ans, on a eu des grandes inondations en Allemagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images, là, des territoires, des terrains qui s'effondrent. Vous pensez vraiment que les Allemands ne respectent pas l'équivalent de leur plan de prévention des risques d'inondation ? Il doit y avoir un seul mot hein, pour dire ça en allemand. Bien sûr qu'ils les respectent. Ça a touché des territoires qui n'avaient jamais connu d'inondation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas face à une transition douce. On n'est pas juste en train de chercher à décarboner. Il faut à la fois que la ville fasse sa part de la décarbonation, s'adapte, quoi qu'il en soit, à un nouveau climat et invente une nouvelle forme de résilience. Hein. Invente finalement une nouvelle façon de gérer ses risques et de gérer l'inconnu. Ça veut dire que ce n'est pas une transition, c'est une redirection. Il y a une brutalité hein, dans le virage à prendre. Le zéro artificialisation net dont on a parlé a posé plein de bonnes questions. Et le grand cadeau que nous a offert le fameux ZAN, hein, c'est de créer une forme de débat national, mais aussi des débats locaux sur le comment on fait la ville, avec une erreur fondamentale. C'est de penser que l'artificialisation des sols est un problème. Ce n'est pas un problème, c'est un symptôme. Il ne faut pas confondre la fièvre et la maladie. L'artificialisation des sols, c'est un symptôme d'un problème beaucoup plus grave. Le fait qu'on s'est concentré en tant que faiseur de ville sur la ville facile depuis 50 ans. Consommation d'espace dans la périphérie, construction de bâtiments neufs, dans des grandes opérations sur lesquelles on va chercher à avoir de la répétitivité, à avoir une efficacité économique et à trouver des économies d'échelle. Il nous faut passer de la ville facile à sa réparation, hein, au travail de l'existant, parce qu'en fait, on a déjà construit au moins 80% de la ville de 2050. Et les 3 virages qu'on doit prendre pour la ville de 2050, ça touche l'ensemble de la ville. Ce n'est pas juste la portion de neuf. Donc toutes les discussions qu'on peut avoir au national et au local sur la construction neuve sont intéressantes, mais complètement secondaires. La question principale, c'est comment on se mobilise pour adapter, pour transformer et pour rendre résilients les territoires qui sont déjà bâtis. Il faut qu'on passe d'une forme d'urbanisme linéaire, hein, consommation d'espace, construction à obsolescence programmée et génération de friches, à une forme d'urbanisme circulaire dans lequel on va chercher, dans les bâtiments existants et dans les espaces urbains, la réponse à nos besoins, que ce soit des besoins de croissance ou des besoins de résilience. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait faire. Moi, je n'ai rien inventé en parlant de ça, on sait faire. La mauvaise, c'est qu'on a 6 grands chantiers à mener, 6 grands chantiers de l'adaptation. On les connaît tous, on sait faire, on les a amorcés, mais on n'a pas vraiment commencé à les mener. Le premier, c'est celui de la canopée. Vous connaissez l'histoire, on en parle sur TF1 tous les étés. Dès qu'il y a un coup canicule, tout à coup, tout le monde réalise que ben, les arbres, c'est bien. ça nous met à l'ombre, il y a de l'évapotranspiration, etc., etc. Oui, la canopée, désartificialiser les sols, ça permet de réduire les risques climatiques associés à la canicule, mais aussi aux inondations. On a besoin de faire ça. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est le caractère massif de la transformation. Ce n'est pas quelques arbres plantés sur la place de la mairie. Ce n'est pas quelques arbres au milieu des bagnoles sur le parking. Hein, c'est doubler la canopée qui est potentiellement implantée dans nos villes. Dans le territoire comme la métropole de Lyon, les potentiels sont à 10% dans la rue, et on se focalise là-dessus, à 30% dans les espaces maîtrisés par les acteurs publics et à 70% dans les acteurs sur les terrains privés. Ça veut dire que c'est un chantier absolument massif dont on n'a absolument pas compris l'ampleur. Il faut le commencer maintenant parce qu'on est en train de planter aujourd'hui les arbres qui nous feront de l'ombre en 2050. On est en train de refaire des rues qu'on aura en 2050. Ça veut dire que tout changement esthétique de vos rues, tous travaux de réhabilitation devraient être l'occasion d'une vraie révolution. On vire les bagnoles, on désartificialise les sols et on plante massivement. Retrouver des sols vivants avec les sols qu'on a, transformer nos façons de faire, le végétal et la nature en ville, en massifiant tout ça. Deuxième chantier, c'est celui des temps. Au lieu de construire, mieux utiliser les mètres carrés déjà là. C'est mieux utiliser nos équipements publics, comme cette école privée en l'occurrence, qui sert de logement touristique tous les étés à Noirmoutier. Ça fait 20 ans que ça dure. C'est travailler le cycle et les usages et la mixité des usages, comme dans cette médiathèque à Grenay, qui sert aussi de bistrot, parce qu'au moins on est sûr d'avoir des horaires d'ouverture élargis. Hein. C'est une piste intéressante. C'est l'occupation temporaire, comme cette occupation temporaire de 22 000 m² à Paris aujourd'hui, dans lequel j'ai mes bureaux, où c'est travailler les temps courts de façon à amorcer très vite les transformations par les interventions d'urbanisme tactique. Le troisième chantier, c'est celui du bâti. On le connaît, hein. On a un petit chantier de décarbonation, mais le chantier de décarbonation à mener, c'est celui-là. C'est une baisse de 94% des émissions carbone du bâtiment. Ce n'est pas les bâtiments neufs, c'est l'ensemble du secteur du bâtiment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement on n'est pas le bon rythme sur MaPrimeRénov', mais que l'essentiel, 85% des chantiers menés avec MaPrimeRénov', sont hors sujet. Ils ne sont pas du tout au niveau des attentes. Le chantier est massif et ce n'est pas un chantier technique et ce n'est pas un chantier thermique. C'est un chantier de seconde vie, c'est-à-dire comment on investit tellement dans un bâtiment de façon à ce qu'il puisse durer encore 30 ou 50 ans. Hein ? C'est 50 à 100 000 euros dans une maison ou un appartement, c'est des budgets absolument massifs. On n'a pas commencé le chantier et déjà on est en train de régner sur les budgets d'État là-dessus. On a un vaste chantier de l'adaptation du bâti. Il va falloir s'y attaquer pour de vrai et mobiliser les moyens aujourd'hui qui sont mobilisés sur la construction neuve. Et puis changer de regard, notamment changer de regard sur l'existant. Aujourd'hui, tout ce qui peut avoir une seconde vie doit être réhabilité parce que le carbone est dans la matière. C'est le fait de préserver notre matière qui est absolument essentiel pour tenir nos budgets carbone. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change de regard et que par défaut, on garde. Tout ce qui peut avoir une seconde vie doit être conservé et doit être traité comme du patrimoine. Et puis construire des bâtiments évolutifs qui vont durer dans le temps, hein, faire durer ce qui est là, et construire des choses qui durent, pas que durables, mais qui durent. Dans l'équation carbone, c'est le temps surtout, et arrêter de faire des bâtiments jetables sera absolument essentiel. Et puis, quatrième chantier, c'est celui des aménageurs, c'est le vôtre. Hein. C'est plus, certes, le chantier du champ à l'entrée du bourg, mais c'est le travail sur les friches, évidemment des friches industrielles, mais des friches commerciales, hein, dont on commence à se préoccuper aujourd'hui, alors qu'on sait qu'on a une zone commerciale en trop par métropole aujourd'hui. Quand je dis une zone commerciale, ce n'est pas un supermarché, hein, c'est l'ensemble du secteur commercial, et qu'on est en train d'assister à une forme d'effondrement. C'est travailler sur les entrées de ville, sur les secteurs économiques sur lesquels on a de la place inoccupée, on a de la capacité à faire, mais il faut rentrer, et jusqu'à présent on ne l'a pas regardé parce que ce n'est pas la ville facile, c'est la ville compliquée, très clairement. Et pour travailler depuis des années sur ces questions-là, je sais combien il faut de l'ingénierie, combien il faut de l'intelligence, combien il faut de la patience et une capacité de médiation pour avancer, mais ça c'est des beaux métiers, ça c'est des beaux marchés aussi pour les uns et les autres. Voilà. Et puis, c'est travailler sur les futurs effondrements, ce que j'appelle les zombies, hein, les bâtiments zombies, avec tout un parc tertiaire dont on ne veut pas aujourd'hui regarder l'obsolescence, mais qui vit aujourd'hui une obsolescence technique, une obsolescence en termes d'usage qui est accélérée. On a des secteurs tertiaires entiers, hein, qui sont aujourd'hui menacés d'une obsolescence extrêmement rapide. Il va falloir réinterroger ces secteurs, pas que les bâtiments, hein, sans doute passer par la démolition, reconstruction dans bien des cas, et avancer. Ça, c'est autant d'opportunités de recyclage, mais aussi de densification. Il y a plein de nuances de densification, il y a plein de modalités pour agir, et il y a plein de boulot à faire, de boulot à mener. Hein, aujourd'hui, on fait soit de la grosse densification, on rase tout, on recommence, soit du très petit. Il va falloir qu'on travaille l'ensemble des nuances, et ça, c'est aussi un job d'aménageur. Travailler dans la dentelle, hein, de la densification douce, qui est rarement douce pour le voisin, j'aime pas trop le terme pour ça, mais qui est en tout cas de la haute couture, hein, qui doit être fait à façon, qui ne peut pas connaître finalement des formes de solutions standards à des problèmes qui ne le sont jamais. Et puis, repenser aussi la façon dont on fait la densification dans la ville dense. Aujourd'hui, on a inventé ce que j'appelle la recette du pâté urbain. Hein, c'est des processus dans lesquels on accuse le promoteur, mais globalement, on est tous coupables. D'avoir un processus dans lequel, parce qu'on a déterminé le projet en fonction d'un tableur Excel au début, d'une valorisation foncière, à la fin, tout le monde se fait la gueule. Hein. Le promoteur, l'architecte, le voisin et le maire, personne n'est content. C'est le seul truc dont on est sûr. Mais il y en a un qui ne fait pas la gueule hein, dans ces processus de densification dans la ville attractive. C'est celui qui a vendu le terrain. Hein. Parce que toutes les politiques du logement qui n'auraient pas des vrais leviers sur la politique foncière seraient finalement de la décoration. Hein. Et aujourd'hui, il est temps qu'on s'attaque aux enjeux fonciers. On a des formes de gentrification sociale et fonctionnelle dans nos territoires. On voit bien que la valorisation du foncier ne permet plus de faire du logement abordable ou social, ne permet plus d'avoir des vrais commerces de centre-ville, ne permet plus d'avoir de l'activité industrielle dans la périphérie, etc., etc. Aujourd'hui, on a des bascules sur la question de la mise en commun du foncier, gestion publique, mais aussi gestion collective, de façon à tenir les prix, tenir aussi les usages dans le temps. On a fait des bascules à Genève sur le foncier industriel. On a fait des bascules du côté français, hein, autour du Genevois français, hein, 4 PCI qui ne vendent plus de foncier économique. On est en train de faire des bascules avec les offices fonciers solidaires. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un grand mouvement qui est en train de se déployer. Il faut qu'on accélère là-dessus, non pas sur une maîtrise publique, mais le fait de déployer des outils qui permettent de maîtriser la surenchère sur les prix du foncier. Et puis, le dernier des chantiers, c'est celui des territoires. Commencer la prospective par penser les fragilités et non pas des rêves de croissance et puis tisser du lien. Hein, tisser du lien pour faire territoire parce que c'est la clé de la résilience. Hein. Alors, pour certains, ce sera de la croissance. Pour d'autres, ce sera la fin, finalement, de l'hypercroissance et tant mieux. Mais en tout cas, repenser la façon de penser la prospective. Et puis, je m'arrêterai là. Il y a le chantier des chantiers. Comment on fait ? Hein, comment vous vous y mettez ? Vous êtes acteur de la ville. Comment est-ce qu'on bascule ? Comment est-ce qu'on engage la redirection, non pas de la ville, mais des acteurs de la fabrique de la ville, parce que c'est bien ça l'enjeu. Aujourd'hui, toutes nos organisations, tous nos territoires sont des stations sports d'hiver de moyenne montagne. On a tous notre or blanc et on a tous cru qu'il était éternel. Alors pour certains, c'est la neige. Hein, pour d'autres, c'est le foncier agricole. Pour d'autres, c'est le béton pas cher. Pour d'autres, c'est les matériaux sans enjeu de carbone. Pour d'autres, c'est les taux d'intérêt bas, etc., etc. Chacun son or blanc. Hein, et on est tous en train de découvrir qu'en fait, il n'est pas éternel. Avec une question clé. Est-ce qu'on rachète une paire de canons à neige ou est-ce qu'on pense à la suite? C'est ça la redirection. C'est d'anticiper la transformation. La redirection, ça commence par acter le fait qu'on va couler moins de béton à l'avenir, nécessairement. Mais il va falloir mobiliser de l'intelligence, beaucoup. Parce que faire de la ville complexe, c'est ça. Et donc, on va changer de matière grise. Miser sur la créativité qui n'est pas que formelle, sur les processus et l'ingénierie, déstandardiser, s'attaquer aux petits, hein, alors qu'on était sur le gros, et puis accepter finalement des modus operandi, des modes de projet qui sont beaucoup plus complexes. Ça passe par un travail de prospective et notamment un regard sur des futurs inconfortables, tous ceux qu'on n'a pas envie de voir quand on fait la stratégie de nos territoires ou de nos organisations. Mais nous, aujourd'hui, on accompagne celles et ceux qui sont prêts à se jeter dans le bain, de façon à redéfinir, non pas comment être optimum, comment optimiser les processus, mais comment être robuste, comment survivre finalement, quels que soient les futurs, parce qu'on ne peut plus choisir un futur. Et puis, accompagner la redirection, adopter de nouvelles pratiques, adapter les pratiques en cours et surtout abandonner. Abandonner certaines pratiques, parce que le renoncement, c'est un moyen pour agir. Le renoncement, c'est difficile au début, mais c'est comme la gymnastique. Une fois qu'on a commencé, qu'on a fait le premier renoncement, on s'aperçoit que c'est un bon moyen pour savoir qui on est, pour aussi avancer et finalement aborder de nouveaux marchés, de nouvelles façons de faire. Parce qu'il va falloir expérimenter. C'est les 10 ans qui sont devant nous, expérimenter tout ça. Parce que, qu'on soit clair, ceci n'est pas une crise. Hein, contrairement à ce qu'on lit dans la presse, on ne vit pas une crise de l'immobilier. On ne vit pas une crise du logement. La crise du logement, ça fait 15 ans qu'elle est là. La crise de la production neuve, elle ne vient pas de commencer. Hein. Ce n'est pas l'ouverture d'une parenthèse qui pourrait se fermer dans un an ou deux. Vous pouvez faire ce pari-là, mais on sait tous clairement que ça ne va pas se passer comme ça. Il n'y aura pas de retour à la normale. C'est la fermeture d'une parenthèse. C'est la fin d'une période heureuse où on ne comptait pas les hectares de terrain agricole, on ne comptait pas les mètres cubes de béton et où l'argent n'était pas cher. C'est la fin de cette parenthèse heureuse et on a aujourd'hui les limites planétaires qui nous touchent. Moi, je ne l'avais pas imaginé, je ne pensais pas que ça irait si vite. Il faut aujourd'hui profiter de cette crise, surtout de ne pas la gâcher, pour accélérer la transformation de nos organisations, la transformation de nos métiers, parce qu'il faut faire, il y a énormément de choses à faire, il faut mener ces chantiers de l'adaptation et on a besoin de femmes et d'hommes pour les mener. Merci à vous.
Merci Sylvain Grisot. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Je ne sais pas, si n'hésitez pas, on va vous faire passer un micro. Il y a une question de Monsieur Imo Matin.
Bonjour, merci, c'est très intéressant. Vous avez parlé de beaucoup de crises, mais je me demandais si vous n'aviez pas oublié la crise sociale dans la ville, parce que finalement, la ville, au cœur de la ville, il y a l'homme, il y a l'humain, il y a la société, il y a le vivre ensemble, et finalement, dans toutes les crises que vous évoquez, vous évitez la crise sociale, alors que si ce n'est pas une crise, il y a une crise qui est en train de se produire, ou en tout cas qui est en train d'inquiéter beaucoup de monde, inquiéter les pouvoirs publics, mais nous inquiéter tous, c'est la crise sociale qui est en train d'arriver à grands pas.
Oui, complètement. Alors, je suis intervenu qu'une demi-heure et ça vous a pas. J'ai fait un bouquin dessus. Mais vous appuyez sur un point qui me semble absolument fondamental, c'est que il n'y a pas d'enjeu écologique. Tous les enjeux écologiques, la crise écologique et sociale et EST. Hein, c'est les mêmes qui sont en première ligne, à la fois des chocs climatiques, des dépendances automobiles, énergétiques, etc., etc. Ce qui pose une vraie question, et c'est le triptyque, une question démocratique, c'est-à-dire que si les crises écologiques nous imposent des mouvements, des contraintes, des renoncements, nous imposent de partager des ressources, et globalement, on voit bien que c'est le cas, même si on n'a pas commencé réellement à le faire, ça veut dire qu'on a un enjeu démocratique sur le partage de l'effort, mais aussi, nous, faiseurs de ville, sur la question de la spatialisation et sur le fait qu'on a des enjeux territoriaux qui sont différents. Alors, moi, je me refuse à parler du périurbain comme une grande globalité, du rural, etc. On voit bien qu'on a des typologies de territoires extrêmement variées, avec des solutions à façon, mais qu'il va falloir trouver des solutions parce que ça a des impacts sociaux directs et qui sont déjà là. Hein. On a vu ça avec les Gilets jaunes, on peut faire 23 interprétations, mais en tout cas, ça a touché des points sensibles et ça a touché vraiment des formes d'inégalité entre les uns et les autres. Moi, je peux aller en vélo, en tramway ou à pied à mon bureau, qui est une ancienne friche industrielle transformée en espace de coworking haut de gamme, etc., etc. J'habiterai dans le périurbain, je travaillerai dans le périurbain, je serai obligé de prendre ma bagnole pour aller dans la zone d'activité. On a des hyperdépendances là-dessus, c'est absolument central, avec une inquiétude derrière, c'est les enjeux politiques, démocratiques sur les échéances électorales qu'on a, y compris les échéances locales qu'on a en 2026. Qu'est-ce qui peut se passer ? Parce qu'aujourd'hui, les gens sentent la crise.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ? N'hésitez pas, on vous fait passer un micro. Oui, il y a une question de Monsieur Meilleur, Paul Meilleur.
Oui, alors merci beaucoup. Moi, je me demandais, on vient de le dire, il y a quand même un sujet sur le besoin en logement, logements sociaux. On vit une crise sociale. Est-ce que ce qui est proposé aujourd'hui ne va pas dans un renchérissement très important des modes de construction ? Et donc, est-ce que ça ne va pas encore éloigner un peu plus, finalement, de la possibilité d'habiter ? Alors, je sais qu'il y a des solutions qui existent de manière opérationnelle. Est-ce que vous avez un peu quelques exemples aujourd'hui de ce qui est fait, de ce qui a été fait ? Et deuxième point, plutôt que de quand on parle de densité, est-ce qu'en termes d'ordre de grandeur, on ne doit pas travailler d'abord à vraiment élever les villes en termes de hauteur, et on voit que là-dessus, eh bien, ceux qui ont les plus grands discours parfois ne sont pas ceux qui bâtissent le plus. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de remettre tout ça en cohérence ? Merci beaucoup.
Alors qu'on ait
et encore une fois, je serais vraiment preneur d'exemples de part et d'autre. Merci.
Alors, qu'on ait un besoin de cohérence, évidemment. Hein, mais la cohérence, elle a besoin d'être territoriale et locale, et on le voit bien que, en fait, peu nombreux sont ceux qui regardent aux échelles du réel, c'est-à-dire la métropole vécue, hein, celle de nos choix résidentiels, de nos choix d'implantation. Sur la question du prix, du coût du logement, hein, du coût du mètre carré, etc., sert beaucoup d'alibi à l'inaction. On le voit quand on a besoin. On a réussi à mobiliser pour du fonds friche, aujourd'hui pour du fonds vert. Et on a les leviers fondamentaux sur l'accès, c'est sur le prix du foncier. Hein. Et aujourd'hui, on a des ruptures nécessaires sur la maîtrise des prix, sur la maîtrise foncière, hein, sur le renouvellement de politiques de maîtrise foncière, y compris par les acteurs publics, mais pas que, hein, aussi les acteurs de la construction, qui sont absolument nécessaires pour éviter l'inflation. Hein, aujourd'hui, l'inflation des 20 dernières années dans les métropoles attractives et surtout là-dessus, on a besoin de maîtrise et on a besoin de faire. Vous le disiez au début, on a besoin de produire du logement. C'est très vrai, non ? Mais arrêtons de résumer la production de logement uniquement à la construction neuve. Produire du logement, c'est aussi transformer des logements existants. C'est aussi d'éviter l'évaporation de logements dans du Airbnb, etc., etc. Donc oui, évidemment, monter à l'étage, c'est une des solutions. En fait, ce qui change dans cette époque, c'est qu'il n'y a plus une solution qui serait la construction neuve dans les métropoles. Ou les grandes opérations, mais il y a des solutions, et notamment des solutions de densification qui sont nécessairement situées à façon et à chaque territoire, finalement, le besoin de se trouver la bonne façon de le faire.
Eh bien, merci beaucoup, Sylvain Grisot.
Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Immo et Radio Territoria.